a la tele.
Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Et c'est la dernière fois, mes amis, que vous entendez cela au quotidien avec Clotilde Seille, parce que si c'était la dernière émission de Kiosque Magazine, c'est aussi la dernière émission de ce programme auquel vous êtes fidèles, du moins je l'imagine, au quotidien. Et comme je le disais tout à l'heure avec mes camarades bénévoles, nous allons inaugurer mardi prochain une nouvelle formule pleine de vie, pleine de surprises, pleine de découvertes aussi. Ce qu'on veut, c'est ça, vous amener à tout ce qui s'écrit, vous qui n'en avez peut-être pas le temps, ni simplement le loisir, ni tout simplement pas l'envie. Voilà, ce sera ça la mission de l'émission Les Voix de Service. Et comme nous serons à peu près, je ne sais pas, entre 15 et 30 à chaque semaine pour éplucher tout ce qui se dit, non seulement dans les journaux, mais également dans les magazines et aussi sur le web. Alors, vous allez voir, on va vous surprendre. Parlez-en autour de vous. Ce sera tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 9h jusqu'à midi moins le quart. Gros magazine. Mais pour l'instant, c'est la dernière de l'émission au quotidien et une émission vraiment toute particulière parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le supposer, c'est ce petit garçon, Elan, dont la photo a propulsé le monde hier dans le drame, dans les larmes. On a tous sorti nos Kleenex de quelques pays que l'on soit pour pleurer sur cette image de ce môme dont on avait l'impression qu'il dormait sur cette plage alors qu'il était décédé. Et c'est d'autant plus terrible aujourd'hui qu'à la une de presque tous les journaux, on nous présente ce même petit garçon quand il était plein de vie. Et alors, difficilement, on peut parler d'autre chose. Ça va tenir une large place de cette émission. Quelques autres sujets, malgré tout, comme y aurait-il du harcèlement à l'Université de Montréal? Également, une chronique de Lise Payette qui nous dit que le ridicule ne tue pas. Et puis, il y aura d'autres chroniques sur des sujets divers, comme par exemple la tragédie grecque ou encore le partage des richesses. Nous irons également en région, mais un peu moins qu'à l'ordinaire à cause justement de cette actualité. Nous irons en début de seconde heure voir ce qui s'écrit dans le cadre de la campagne électorale. Et là encore, la crise migratoire s'invite dans cette campagne. Quelques mots de sport avec les Expos et Eugénie Bouchard. Nous irons à l'international où on verra entre autres qu'au Guatemala, on a connu le scandale de trop. Et puis... Dans le domaine culturel, Tony Bennett, c'est pas fort pour 200 $, juste quelques chansons, un petit tour et puis s'en va. Les Nombris, la nouvelle BD. Monsieur Badawi, qui est l'invité fantôme du PEN. Le PEN, ça a lieu à Québec, ce regroupement d'écrivains, journalistes qui pensent à tous ceux qui sont enfermés de par le monde. Et puis aussi à l'écoute de Brando et le festival de musique de Mont-Tremblant. Voyez-vous, il y aura quand même des sujets variés, du moins je l'espère pour vous, en cette journée où, malgré tout, la petite vedette, malgré elle, du monde de l'actualité, c'est ce petit enfant qui aurait certainement préféré rester dans l'ombre avec ses parents près de lui. Alors voilà, il fait la une de la presse, bien sûr, ce matin. C'est une photo à ce moment-là du papa avec ses deux petits garçons. Les deux petits garçons, maintenant, on le sait, sont décédés. Le plus jeune sur cette photo tient la main de son papa. Il éclate de rire. Ils sont dans un jardin fleuri. Et on nous dit en légende le tragique destin du petit Elan, mort noyé en tentant de fuir la Syrie a ébranlé la campagne électorale hier après qu'on eut appris que sa famille rêvait de vivre au Canada. Ottawa, qui projette d'accueillir jusqu'à 11 300 des 4,1 millions de réfugiés syriens, en fait-il assez? Trop peu, trop lentement, déplorent des organismes humanitaires. Alors, beaucoup de gens s'expriment ce matin Je vais essayer de vous lire le plus possible des bribes de leurs paroles, notamment Agnès Gruda, notamment Vincent Marissal. Et puis, on nous raconte aussi comment ça s'est passé lorsque l'embarcation a chaviré et que le père essayait de tenir la main de ses gamins et qu'il a senti les mains glisser. En tout cas, c'est vraiment terrible. D'autres sujets quand même aussi qui font la une, mais vraiment, ce sont des petits titres, notamment un titre qui concerne les Carabins de Montréal, une équipe de football universitaire. Mais oui, la vie continue. Et puis, on nous présente Delaf et Dubuc avec leur Nombril du Monde, lancé partout aujourd'hui. Le 7e volume des Nombrils figure au top 10 des bandes dessinées francophones tirées à plus de 100 000 exemplaires. Alors avant de commencer à vous faire la lecture de tout ce qui se dit sur ce petit bonhomme, entre autres, le clin d'œil de Stéphane Laporte, qui nous dit ce matin, pour ne pas être sexiste, Guy Julien va passer la main dans les cheveux de Jean Lapierre. Alors, nous y sommes. On nous dit dans la presse, plus il y a plusieurs sujets sur le petit bonhomme. D'abord, la campagne électorale qui se dit ébranlée, évidemment. La photo de ce bambin mort sur une plage de Turquie a ébranlé tout le monde, y compris le ministre de l'Immigration et candidat conservateur Chris Alexander, qui va être amené à regarder Ottawa. À regagner Ottawa pour gérer cette crise-là. On nous parle de cette vie de guerre et d'exil de ce petit bonhomme. D'abord, sa vie, la famille du garçon était d'abord installée à Damas, où le père Abdullah était barbier. Et puis en 2011, la guerre civile a éclaté en Syrie. Alors en 2012, toute la famille a fui vers Alep, qui deviendra vite l'une des villes les plus durement touchées par la guerre. On se souvient entre autres des reportages d'Agnès Gruda qui était là-bas. Alors la famille a décidé de se réfugier à Kobané, qui est la ville d'origine du père. Et en juin dernier, cette ville a été le théâtre de l'un des pires massacres commis par le groupe État islamique. 146 civils tués en 24 heures. En 2014, la famille aurait une première fois gagné la Turquie avant de revenir à Kobané, selon l'agence France Presse. Et en 2015, à une date indéterminée, elle serait retournée en Turquie. Elle aurait une première fois tenté, sans succès, de traverser en Grèce, plus tôt cette année. À quatre passeurs, la famille a payé quelque 6 000 $. Elle s'est embarquée dans la nuit de mardi à mercredi en direction de l'île de Kos, en Grèce. Et bien que ce soit l'un des plus courts passages entre la Turquie et l'Europe, environ 20 km, la traversée entre Bodrum et l'île grecque de Kos est réputée particulièrement dangereuse. Et en pleine mer, l'un des passeurs se serait levé exprès pour faire chavirer le bateau. Les naufragés ont tenté de s'agripper au bateau pendant une heure. Monsieur Kurdi dit avoir laissé aller son aîné qu'il venait de voir mourir pour tenter de sauver son cadet qui lui aurait échappé. Le cadavre du petit Elan, alors on le sait, a été retrouvé sur la plage de la station balnéaire de Bodrum, vêtu d'un simple t-shirt et d'un short bleu, le visage contre le sable. Il ne portait pas de veste de sauvetage et son corps a été retrouvé par la journaliste Nilüfer Demir. « Mes enfants ont glissé des mains », raconte ce père qu'on voit fou de douleur alors qu'il sort de la morgue où il a dû aller reconnaître non seulement ses deux enfants, mais sa femme aussi, qui est décédée dans cette tragédie-là. Alors, je vais continuer de vous en parler puis de vous lire bien des choses. Par exemple, l'éditorial aujourd'hui dans la presse, un éditorial qui est signé, je vais vous le dire, ce ne sera pas long, Pascal Breton, je vous lis ça dans quelques instants. Alors, elle dit, Pascal Breton, mais qu'attendons-nous ? La vision d'un petit garçon mort, noyé en cherchant une vie meilleure, a ému l'Occident et lui a ouvert les yeux. Le Canada doit maintenant agir, dit-elle. La vision cruelle, insoutenable, de ce petit Aylan Kurdi mort noyé en quête d'une vie meilleure est un électrochoc qui secoue jusqu'au chef en campagne électorale. Cela ne doit pas être qu'une passade. La crise des migrants, devenue crise des réfugiés, se joue tristement au grand jour depuis des mois, des années. Elle s'amplifie et se gonfle comme les vagues sur lesquelles s'embarquent des milliers de personnes en remettant leur destin entre les mains de passeurs sans scrupules, les entassant comme du bétail sur des rafiots parce que la mort ne peut pas être pire que la vie, leur vie. Le monde n'a jamais compté autant de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils fuient la misère, la pauvreté, la guerre. Et jusqu'à mercredi, jusqu'à ce que la photo d'un petit corps inerte face contre sable sur la rive fasse le tour du monde, le Canada regardait la crise de loin. Comme si le problème était surtout celui de l'Europe. Comme si les océans bordant son territoire faisaient écran au même titre que les barbelés érigés par certains pays pour repousser l'afflux de réfugiés. Il serait toutefois faux de penser que le Canada ne fait rien. Sa contribution dépasse celle de plusieurs autres pays occidentaux. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Sous le gouvernement Harper, le resserrement des règles pour les réfugiés a également rendu la tâche plus complexe. Depuis le début de l'année, à peine 2000 Syriens, un chiffre bien en deçà des objectifs, ont trouvé au Canada une nouvelle terre d'accueil. Le Canada qui participe aussi à l'aide humanitaire dans les camps de réfugiés, mais ce n'est pas une avenue à long terme. La moitié des 4 millions, un peu plus de 4 millions de Syriens qui s'y entassent ont moins de 18 ans. Sans éducation, sans avenir, que peuvent-ils espérer ? L'idéal, bien sûr, dit Madame Breton, serait qu'ils vivent chez eux. Mais comme il n'existe pas de solution simpliste pour mettre fin à la violence et au chaos, l'Occident doit leur ouvrir la porte. Aujourd'hui, les enfants de ces réfugiés sont des Canadiens accomplis, des ingénieurs, des médecins, des enseignants. Pourquoi ne pourrait-on pas faire de même à nouveau, se demande-t-elle en faisant référence aux enfants des Boat People qui ont afflué dans les années 79 et 80 alors que le Canada avait accueilli près de 60 000 réfugiés provenant du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Dans le soleil aujourd'hui, sous la plume de Jean-Simon Gagné, il fallait une photo, écrit-il, une image, un symbole du drame vécu par des millions de réfugiés. Si on ne voit pas, on n'imagine pas, écrit-il. Oui, il semble qu'il fallait une image atroce pour secouer un peu notre humanité, comme un tapis poussiéreux. Le sort est tombé sur le petit Syrien, Aylan Kurdi, âgé de 3 ans. Ni la première victime, ni la dernière, sauf que cette fois, une photographe passait par là. « La vie est une loterie », m'avait expliqué Mohamed le Soudanais, un immigrant clandestin rencontré en Grèce. Il y a quelques années, le gars s'apprêtait à risquer sa vie en se cachant sous un camion. Le truc consistait à se cramponner aux essieux du poids lourd juste avant qu'il entre dans un traversier vers l'Italie. « Tu nais dans un pays riche et tu peux vivre », disait-il. « Ou alors tu nais dans un pays de merde et ta vie ne vaut rien. Après, ça te colle à la peau. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Partout où tu vas, on te répète la même chose, va te faire foutre, sale homme noir, va te faire foutre, sale musulman. Dans le droit, même sujet, Patrick Duquette cette fois-ci, mais pourquoi cette photo-là en particulier ? Des photos d'enfants morts en Syrie, en Irak et sur les côtes de la Méditerranée, il en circule plein sur le net. Le plus souvent, elles exposent la cruauté de la guerre dans sa plus simple expression. Un bébé avec la moitié du crâne arraché, des cadavres d'enfants couverts de sang et de poussière alignés dans une salle d'école après un bombardement. Le plus souvent, c'est l'horreur brute, sale, monstrueuse, captée sur des photos mal cadrées avec un éclairage approximatif. Il faut avoir le cœur bien accroché pour les contempler. Alors que sur cette photo-là, l'horreur est là, bien sûr. Mais comme en filigrane ? Alain a l'air de dormir, il est couché sur le ventre, dans la même position qu'adoptait Fiston à 3 ans, dans sa couchette. C'est pourquoi cette photo, peut-être un peu moins insoutenable que d'autres, fait la différence. Soudain, ce n'est plus un enfant anonyme qui meurt noyé à l'autre bout du monde. C'est notre fils. dans le Journal de Montréal, José Legault écrit « La photo qui tue ». La photo coup de poing du petit Elan Kurdi gisant noyé sur le sable à bout ébranlé le monde entier. Stephen Harper ne bronche pas. Pas question, lançait-il hier, d'accélérer urgemment la venue au Canada de migrants syriens et irakiens. La crise humanitaire est réelle, mais il s'entête à miser avant tout sur une politique militariste contre le groupe armé État islamique et l'envoi de fonds canadiens, dit-il, pour aider les migrants qui restent là-bas. Face à l'urgence, il reste de glace. Impossible de savoir ce qu'il entend faire au-delà des quelques milliers à peine de réfugiés prévus d'ici 4 ans seulement. Pis encore, en anglais, le Premier ministre réduisait même la question des réfugiés à un petit aspect du problème global. Il reprenait en fait ce qu'il disait déjà mardi. Nous n'aurons pas une solution en adoptant une politique sur les réfugiés. Nous devons prendre une position ferme militaire contre l'EI. Et c'est ce que nous faisons. Juste à côté, on voit, nous sommes avec, c'est une tante, je pense. Elle s'appelle Tima Kurdi, elle porte le même nom. Elle est la tante du petit Eilan. Elle s'est confiée au journaliste devant sa maison de Coquitlam, près de Vancouver. Elle souhaitait parrainer la famille pour qu'ils trouvent asile au Canada. On voit aussi en photo Eilan Kurdi, 3 ans, qui a été retrouvé mort sur une plage turque avec son frère et ses enfants. Et on nous présente aussi le père d'Eilan en photo, Abdullah Kurdi, qui s'est rendu à la morgue, je vous le disais, de Bougla, près de Bodrum, pour identifier les corps. À la demande du père de famille, les 3 cercueils seront transportés vers la Syrie par avion cette fois. Au sujet de la tante, j'imagine que c'est ici qu'on en parle. En tout cas, toujours est-il que cette femme-là a vraiment fait des pieds et des mains. C'est elle qui leur a envoyé de l'argent pour qu'ils puissent faire ce voyage. On comprend à quel point elle doit être complètement ébranlée. Il y a un papier signé Franz Durupt, qui est un journaliste de Libération, qui a été relayé ce matin dans le Devoir, qui dit que les images qui changent le monde ont-elles vraiment changé le monde? Et l'image d'Eilan Kurdi, cet enfant syrien, va-t-elle éveiller nos consciences? C'est ce qu'espère, par exemple, Alain Mingham, photojournaliste et lauréat du World Press, dans un entretien à Libération. Mais ne risque-t-on pas de projeter dans cette image un pouvoir qu'elle n'a pas? Historiquement, elle renvoie à d'autres icônes, d'autres drames. On pense forcément à la photo de Kim Phuc, enfant vietnamienne, victime d'une bombe au napalm, pleurant nu devant l'objectif. Le 8 juin 1972, ce photographe de la Associated Press capture l'instant où 2 avions de l'armée sud-vietnamienne avaient bombardé par erreur une pagode où se trouvaient des compatriotes. On pense aussi à la photo prise en Soudan, en 1993, par Kevin Carter, d'une enfant prostrée, un vautour en arrière-plan, au moment où sévissent la famine et la guerre civile. Et puis, ces images, elles sont devenues iconiques. En 2011, une enquête a pourtant conclu de la seconde qu'elle avait donné lieu à des interprétations excessives. Non seulement la fillette était en fait un garçon, mais en plus, il était au moment du cliché déjà pris en charge par Médecins du Monde. Il survivrait à la famine, mais pas au paludisme dont il est mort en 2007, rappelait l'Humanité en 2014. De la photo de Kim Phuc, on dit régulièrement qu'elle a été un déclencheur dans la décision du gouvernement Nixon de mettre fin à la guerre au Vietnam. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, tempère André Guntert, chercheur en histoire visuelle à l'École des hautes études en sciences sociales. En réalité, dit-il, une image iconique accompagne un changement qui se manifeste déjà par ailleurs. Au moment où la société de presse diffuse la photo de Kim Phuc, l'opinion américaine est déjà en train de basculer pour la fin de la guerre au Vietnam. Quant à Manon Cornelier, elle écrit aussi dans Le Devoir « Manquer de cœur en politique, c'est assassin ». Les conservateurs le savent trop bien et ils ont compris jeudi qu'on leur ferait jouer le mauvais rôle. Tout leur plan de match en a été chamboulé. Le ministre Alexander a suspendu sa campagne pour rencontrer ses fonctionnaires et analyser la situation. Le ministre de la Défense, Jason Kenney, qui prévoyait faire une annonce sur l'intégrité du système d'immigration du Canada et la sécurité nationale, s'est abstenu. Parler sécurité aurait fait mauvais genre. M. Harper, lui, a pris le sujet de front. Il a toutefois gardé le cap. Selon lui, accueillir plus de réfugiés ne résoudra pas le problème de fond. Il faut tenter d'éradiquer la source du problème, croit-il, soit la violence du groupe armé État islamique. Oui, mais voilà. Si le gouvernement conservateur a su ouvrir sa bourse pour des fonds requis par les Nations Unies, il n'a pas su ouvrir ses bras et son cœur. M. Harper s'en défend, mais encore jeudi. Il s'en est tenu à ce qu'il a promis en début de campagne, soit le transfert de 10 000 réfugiés syriens de plus, mais d'ici 4 ans seulement. On va aller voir les caricatures. Elles sont quelque chose aussi. Dans Le Devoir, Garnot nous présente le petit garçon dessiné sur cette plage et il nous présente aussi sur sa chaise de sauveteur Chris Alexander, le ministre de l'Immigration du Canada. La chaise de sauveteur est juste à côté du petit garçon et le ministre est en train de lire le journal sur la crise des migrants en disant « c'est terrible », mais il ne descend pas de sa chaise de sauveteur. Chapelot, lui, nous amène sur cette même plage avec cette fois-ci la photo telle qu'on l'a vue hier de ce petit Elan. Mais lui, il ne présente pas monsieur le ministre d'ici. Lui, il présente monsieur Bachar al-Assad, le président de la République de Turquie. Et il est juste à côté du petit garçon et il a avec lui son parasol, sa chaise de plage, tout ce qu'il faut pour boire et manger, sa serviette autour du cou et son caleçon de bain sur lui. Et là, il passe à côté du petit gamin et Serge Chapelot, c'est juste écrit en légende comme si c'était une carte postale « Souvenir de vacances de Bachar al-Assad ». La plus belle, je pense, la plus touchante et la plus troublante, c'est celle de Y, qui titre seulement « La honte ». Et il y a une main, la main semble tout droit descendue du ciel. On voit que le bout de bras porte une grande toge blanche. On pense donc tout de suite que c'est Dieu qui est descendu du ciel et dans le creux de sa main. Il tient ce petit bonhomme dans la position dans laquelle on l'a trouvé sur la plage. J'ai envie tout de suite de vous faire entendre une chanson. Tiens, une fois n'est pas coutume. Elle n'est pas d'hier. Vous savez, les Kurdes ont déjà connu un drame, notamment pendant la guerre du Kosovo. Et à l'époque, Pierre Perret avait écrit une chanson qui s'appelle « La petite Kurde ». La voici.
Petite, si tu es kurde, écoute-moi. Il faut partir et quitter ton chez-toi. Moi j'ai connu ton sort, j'ai tutoyé la mort. On n'a jamais raison contre un soldat. Ils étaient 100 autour de ma maison. Au mur il y avait de l'ail et des poivrons. Le vent était si doux, le ciel était si clair. Et mon père est tombé dans un éclair. C'était un matin calme de septembre. Ils ont amené ma mère dans la chambre. Grand-père dans ses mains pleurait comme un enfant. Dehors on entendait hurler maman. Grand-père grand-mère faisait du pain dans la cuisine. Elle s'effondra le nez dans la farine. Et sur son cœur éclos la fleur d'un géranium, dernier hommage qu'elle ait reçu d'un homme. Grand-père à coups de crosse dans le dos implorait la pitié de ses bourreaux. J'entendais les soldats qui riaient tant et plus, et maman sur son lit ne criait plus. Puis soudain le soleil s'est endeuillé, les obus éclataient comme des œillets, la mort faisait ripaille jusque dans nos jardins, il n'y poussait plus que des orphelins. La pluie qui avait cousu tout l'horizon faisait fumer les ruines des maisons. Et tout en m'éloignant du ciel de Babylone, j'ai compris que je n'avais plus personne. N'écoute pas les fous qui nous ont dit la liberté est au bout du fusil. Ceux qui ont cru ces bêtises sont morts depuis longtemps. Les marchands d'armes ont tous de beaux enfants. Depuis la nuit des temps, c'est pour l'argent que l'on envoie mourir des pauvres gens. Les croyant la patrie, prétexte et faribole, combien de vies pour un puits de pétrole. Petite, si tu es kurde, il faut partir. Les enfants morts ne peuvent plus grandir. Nous irons en Europe, si tel est notre lot. Là-bas, ils ne tuent les gens qu'au boulot.
Ouh, hein? Je pense qu'il n'y a rien à rajouter à cette chanson-là. Petite, si tu es kurde, va-t'en de chez toi, nous irons en Europe. C'était pas prémonitoire, hein, parce que je vous dis, Pierre Perret avait écrit ça au moment de la guerre du Kosovo, si je me souviens bien, mais c'est encore une chanson qui est tristement d'actualité. Lorsque je reviens, on va continuer un peu de parler de cette crise des réfugiés. Je me refuse de parler d'une crise des migrants. On est migrant quand on choisit un pays. Moi, j'ai choisi ce pays-là il y a 30 ans. Je suis une migrante. Je ne suis pas une réfugiée. Les réfugiés fuient quelque chose. Et c'est donc de crise de réfugiés qu'il faut parler. Il faut arrêter de parler de crise de migrants. Alors, on va continuer à parler de ces réfugiés, mais aussi d'autres sujets, notamment... La chronique, l'opinion de Madame Lise Payette aujourd'hui vendredi. Alors, c'est la dernière émission, je vous le disais au tout début, Kiosque Magazine disparaît, mais l'émission Au Quotidien aussi disparaît des ondes. C'est une dernière aujourd'hui, en ce vendredi 4 septembre, mais cela dit, moi je ne disparais pas des ondes et toutes les voix que vous êtes habitués d'entendre aussi, vous allez continuer de les entendre, mais au sein d'un grand magazine qui va commencer dès mardi prochain, qui va s'appeler Les Voies de Service, bien sûr voies avec un X et non pas les voies de service comme sur les autoroutes, mais les voies, les 25 ou 30 personnes qui vont venir se relayer ici aux différents micros de cet humble studio pour vous informer, pour vous faire rire, pour vous détendre, pour vous instruire aussi, pour toutes sortes de bonnes raisons. Et je suis convaincue qu'on va avoir beaucoup de plaisir, vous et nous tous ensemble. Mais l'actualité en ce dernier jour de l'émission Au Quotidien, je pense que je m'en souviendrai longtemps, c'est l'actualité et les bouleversements qui suivent cette image terrible de ce petit gamin sur la plage. Et notamment, on apprend qu'ici, les organismes d'accueil du Québec sont déjà prêts à recevoir des réfugiés. Je vais vous lire ça, c'est dans Le Devoir, c'est Isabelle Porter qui raconte. « C'est du jamais vu. Depuis que circule la photo du bambin trouvé sur cette plage de Turquie, le téléphone n'arrête pas de sonner chez Action Réfugiés Montréal. Nos lignes sont congestionnées, raconte le directeur Paul-Anthony Clark. Il y a des gens qui appellent parce qu'ils veulent t'aider. J'ai un monsieur de Berthierville qui m'a appelé parce qu'il veut parrainer des Syriens, lance-t-il étonné. Je reçois des messages de gens qui veulent faire des dons. On n'a jamais vu une réaction de la population comme ça. C'est terrible, hein? Ce malheureux petit bonhomme, il est en train de devenir une légende alors qu'il est décédé et il est en train d'être une espèce de bougie d'allumage là, pour toutes sortes de choses. Mais il a fallu qu'il meure pour cela. C'est d'une tristesse infinie. Alors on nous dit donc, sous la plume d'Isabelle Porter, que le Québec prévoyait, alors que le Québec prévoyait d'accueillir un total de 1650 réfugiés en 2015, les organismes qui travaillent avec eux sur le terrain se disent capables d'en recevoir jusqu'à 5000, dont des milliers de Syriens. J'en ai discuté avec les collègues et je mettrai ma main au feu qu'on serait capable d'en avoir 5000, a déclaré Stéphane Rechold de la table de concertation des organismes aux personnes des personnes réfugiées et immigrantes, le TCRI. Le TCRI fait ici référence à des réfugiés pris en charge et parrainés par l'État. En 2014, le Québec en a accueilli 1515, mais aucun n'était syrien. Le groupe le plus important provenait de la République démocratique du Congo, la RDC, et depuis janvier dernier, seulement 8 réfugiés syriens parrainés par le Canada se sont installés au Québec, seulement 8. Cette évaluation survient alors que le premier ministre Couillard se dit ouvert à accueillir des milliers de réfugiés en provenance de Syrie. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? C'est aussi dans le Devoir, en page 8 ici, c'est Christian Rioux qui signe une chronique qui s'intitule « Les donneurs de leçons ». Je vous lis ça dans quelques secondes. La photo d'un enfant mort, dit Christian Rioux, sera toujours obscène. Mais allez donc expliquer cela à une presse en mal de sensation. La presse britannique, qui se targue de faire la leçon à l'Europe et notamment à la France en matière de migrants, a donc étalé à pleine page la photo du petit Elan Kurdi échoué mercredi sur une plage turque. Tout cela alors qu'en France et en Allemagne, où l'on accueille pourtant plus de réfugiés qu'au Royaume-Uni, a prédominé une saine pudeur, celle qui est due à cette abomination que sera toujours la mort d'un enfant. Il en va un peu du Royaume-Uni comme du Canada. Si le premier est le cancre de l'Europe en matière d'asile, le second se classe parmi les cancres des pays développés. Et pourtant, c'est dans ces pays où l'on préfère généralement les immigrants riches, jeunes et instruits, que l'on semble le plus prompt à faire la leçon aux Européens. Ainsi, une certaine gauche qui confond la politique et les bons sentiments ne cesse de laisser entendre qu'il faudrait pratiquement abolir les frontières afin d'accueillir toute la misère du monde, selon les mots de l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard. La droite néolibérale se dit sensiblement la même chose. Selon elle, il suffirait pour régler cette crise migratoire de faire comprendre au bon peuple que l'immigration est bonne pour l'économie. La chose serait vraie partout et en tout temps, comme si l'immigration n'avait pas aussi des coûts sociaux et politiques. Le problème des donneurs de leçons, dit Christian Rioux, c'est qu'ils ont partout et toujours la même solution, l'ouverture à tout va. Or, la crise migratoire que vit actuellement l'Europe ne serait-elle pas justement le résultat d'un certain mépris des frontières? Si l'on veut se faire une idée de l'immense capharnaüm que représenterait un monde sans frontières, il suffit en effet de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Je vous rappelle que c'est Christian Rioux qui nous partageait cet avis-là. Je vous propose de faire une petite pause par rapport à ce sujet sur lequel on va revenir à droite et à gauche. Il y a d'autres sujets d'actualité, comme par exemple un problème de harcèlement, semble-t-il, à l'université. C'est dans la presse. Je vous lis ça dans quelques secondes. Alors c'est Ariane Lacourcière qui écrit ce matin dans la presse. D'abord, il y a ce chiffre en gros titre qui est assez effarant. 67%, Ça, c'est la proportion de diplômés hors du Canada et des États-Unis parmi les résidents en détresse qui ont demandé, qui ont adressé une demande à l'Ombudsman de l'Université de Montréal. Intimidation, discrimination, harcèlement. Les étudiants de la faculté de médecine de l'Université de Montréal travaillent dans un milieu hostile, révèle un rapport interne dévastateur obtenu par la presse. Le document rédigé par l'Ombudsman de l'Université de Montréal lève le voile sur les problèmes subis par les résidents en médecine. Dans son rapport, l'Ombudsman Pascal Descaries demande à la faculté de médecine d'agir pour que cessent les pratiques ou attitudes inappropriées de harcèlement ou d'intimidation se manifestant parfois de manière récurrente et bien enracinée chez certains membres de sa communauté et dans certains milieux. L'enquête de l'Ombudsman fait suite au suicide d'une résidente en médecine de l'Université de Montréal, c'était en 2011. À l'été 2013, la famille de cette étudiante a demandé à l'Ombudsman d'intervenir, estimant que les responsables facultaires ont contribué par leurs approches et leurs lacunes en termes d'accompagnement et de soutien à la mort de la jeune femme. L'hiver dernier, une deuxième étudiante en médecine de l'Université de Montréal a mis fin à ses jours. À la même époque, la presse avait révélé que 6 des 9 programmes de chirurgie de l'établissement avaient été mis en sursis par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, notamment pour des problèmes de harcèlement. En entrevue, Mme Descaries tient à préciser que beaucoup de choses sont faites à la faculté de médecine et à l'université pour soutenir les résidents. Il y a de bonnes pratiques, mais il reste des choses à améliorer, dit-elle, tout en soulignant que l'université a collaboré de façon exemplaire à son enquête. Certains résidents rapportent encore trop souvent que leur évaluation se déroule dans un climat de tension et de manque de respect. Les étudiants étrangers semblent les plus touchés par les difficultés. Sur 39 demandes d'assistance adressées à l'Ombudsman par des résidents en détresse au cours des 10 dernières années, plus de 67% proviennent de médecins diplômés hors du Canada ou des États-Unis, apprend-on dans le rapport. Ces résidents semblent vivre proportionnellement davantage de difficultés que les autres. Certains expriment le sentiment d'être la cible de commentaires désobligeants, voire discriminatoires, de la part de leurs évaluateurs et sentent qu'ils sont évalués plus sévèrement. Une source bien au fait du dossier n'hésite pas à dire qu'il y a carrément du racisme à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Ce vendredi 4 septembre dernier kiosque et dernière émission de Au quotidien sur les ondes de Canal M, il y a en ce vendredi bien sûr une autre opinion de Madame Lise Payette qui sort comme chaque vendredi dans Le Devoir. Celle-ci s'intitule « Le ridicule ne tue pas ». Et elle dit, et ma foi, c'est bien dommage, parce que si le ridicule tuait, la campagne électorale qui doit durer 11 semaines au total serait terminée depuis déjà un petit moment, faute des principaux prétendants qui seraient tombés au champ du déshonneur. Pour ma part, je n'en peux plus depuis plusieurs jours de les entendre raconter n'importe quoi autour des millions qu'il nous faudrait, des milliards qui reviendront dans nos poches, aussi bien que des déficits, des budgets équilibrés ou des baisses d'impôts, la main sur le cœur. Honnêtement, devant tout ce fouillis, moi, le cœur me lève. Le directeur du Devoir a écrit il y a quelques jours que les femmes étaient complètement absentes du débat électoral. « C'est plus que vrai », dit Lise Payette. Il faut le remercier de l'avoir souligné. Les trois grands candidats utilisent les femmes pour les photos seulement. C'est la mode en ce moment. Ce qu'elles auraient à dire ou à proposer ne les intéresse pas du tout. Les dossiers qui concernent les femmes n'intéressaient personne jusqu'à cette semaine quand Thomas Mulcair a parlé pour la première fois de la violence faite aux femmes et du sort des femmes autochtones disparues ou assassinées. Quelqu'un a dû lui souffler dans l'oreille qu'il devrait se mouiller finalement. Il l'a fait, une fois. Nous devrions nous en réjouir sans doute, car ce sera probablement la seule fois, et encore, sans aucun engagement. Cette campagne électorale, dit Mme Payette, est la plus vide que j'ai jamais vue, vide de sens, vide d'objectif, vide de vision d'avenir. Et d'ailleurs, elle le redira. Qui a parlé du réchauffement de la planète, de l'urgence d'agir et de l'effort qu'il faudra exiger de tout le monde ? Aucun des trois grands candidats. C'est Barack Obama qui se bat tout seul sur ce sujet avec audace et courage. Si vous me dites que je suis la seule à en avoir assez du cirque électoral, dites-le moi, je vais me faire soigner. Si nous sommes aussi nombreux que je le crois à avoir la nausée de n'entendre parler que d'argent, de rentrées, de dépenses, de fric et de pétrole de l'Alberta, on devrait se donner la main et former une chaîne de résistance. Il y a longtemps que ce qu'on appelait démocratie a sacré le camp de ce pays qu'on appelle le Canada. Vous allez peut-être me répondre que c'est la même chose au Québec et vous auriez raison. Raison de plus pour qu'on vole au secours de ce qu'il nous reste de démocratique ici, avant de lui faire des funérailles officielles. Il est grandement temps de nous réveiller et de reprendre en main cette formidable construction que nous appelons Québec et qu'un gouvernement élu est en train de démolir avec un sans-gêne lamentable. Le tout à la poubelle du gouvernement Couillard est devenu absolument intolérable, dit-elle. Les efforts de nos parents, de nos grands-parents, leurs sacrifices, leurs luttes, tout à la poubelle. Notre avancement comme nation indestructible, notre résistance aux attaques planifiées du roc à travers le temps, notre conquête voulue et méritée de la reconnaissance du reste du monde, de nos talents, de notre littérature, de notre cinéma, de notre culture, de notre endurance, à la poubelle aussi, ça n'a aucun sens. Ce qui manque le plus, dit encore Madame Payette, ce qui manque le plus chez tous ces grands politiciens, c'est un tout petit peu d'humilité. Ça les aiderait à trouver de meilleures solutions et ça nous permettrait de respirer par le nez. En attendant, je devine que vous allez m'écrire, que c'est sur moi-même, qu'il faudrait mettre un bouton « mute » parce que maintenant, depuis quelque temps, elle met le « mute » à la télévision quand elle les voit parler. Eh bien, elle dit « Madame Payette, je vous connais tellement, mais je vous aime quand même. Cette campagne électorale est la plus vide que j'ai jamais vue. Vide de sens, vide d'objectif et vide de vision d'avenir », rappelle-t-elle en conclusion. Journal de Montréal ce matin, morte 6 heures après avoir vu le médecin. On parle d'une jeune femme, une jeune mère de famille dont le diagnostic a été fatal. Et sa famille poursuit l'omnipraticien qu'elle juge négligent pour 1,2 million de dollars. Le docteur ne l'a pas évalué et investigué adéquatement et en temps utile. La condition médicale de Sandrine Kergaute, contrairement à ce qu'aurait fait un médecin moyennement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, en raison de la faute commise par le défendeur, Sandrine Kergaute a grandement souffert et a eu conscience de sa mort prochaine, lui causant d'importantes douleurs, stress et angoisse. La famille est atterrée par le décès subi, inattendu et prématuré de cette femme. Ils souffrent toujours d'un intense chagrin, de tristesse, de souffrance morale et de colère. Ils n'ont toujours pas été en mesure de faire leur deuil. Je ne sais pas exactement. Elle s'inquiétait de symptômes persistants de fièvre, de maux de gorge, de toux, en plus d'avoir de la difficulté à respirer. Sa visite dans le bureau de l'omnipraticien n'aura donc duré que quelques minutes et elle a été renvoyée avec une prescription d'antibiotiques pour pneumonie et amygdalite. Mais de retour chez elle, la maman d'une petite fille de 3 ans à l'époque a cessé de respirer vers 19h50. Alors, qu'est-ce qu'elle avait finalement? De quoi est-elle décédée? Malheureusement, on ne semble pas nous le dire dans cet article-là. Peut-être nous le précisera-t-on un peu plus tard, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Si vous étiez à l'écoute de l'émission hier, je vous parlais de ce pauvre petit mouton qui pesait 88 livres. C'est un mouton mérinos qui a été retrouvé après des années d'errance, tout seul. Eh bien, il a été tondu hier avec succès par un champion de la discipline qui lui a retiré plus de 40 kilos de laine sur le dos, pauvre petit. Établissant d'ailleurs un possible record, la bête nommée Chris avait été secourue par une association de protection des animaux. Celle-ci en avait appelé d'urgence aux spécialistes australiens de la tonte, la toison du mouton étant si épaisse que sa vie en aurait été menacée. Il aura fallu 42 minutes hier à Jans Elkins pour passer Chris sous sa tondeuse et lui retirer son manteau de laine d'exactement 40,4 kilos. Puis là, on voit une photo, une fois qu'elle a été tondue, C'est sûr que ça n'a pas dû être facile à faire. On voit qu'elle a un petit peu saigné sur le... Mais au moins, on lui voit les yeux, ce qu'on ne voyait plus du tout. Ses yeux étaient complètement... On ne voyait plus que le bout du museau, puis le bout des papattes. C'est tout. Et elle était plus large que haute. C'est complètement fou. Et là, en plus, ils ont été obligés de lui mettre un petit manteau. Parce qu'en ce moment, c'est l'hiver, là-bas. On est évidemment parce qu'ils sont au contraire de nous. Donc, ils lui ont mis un petit manteau parce qu'ils ont vraiment très, très peur que finalement... Elle gèle, quoi. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je sais qu'ici, on nous parle du regroupement du CHUM et de Saint-Justine qui inquiète beaucoup le personnel. Ma camarade Christiane Campagna va vous en parler également durant le bulletin du handicap qui suivra cette émission. Et le bulletin du handicap, lui, est là pour rester. C'est vraiment juste l'émission au quotidien, les émissions au quotidien et Kiosque Magazine qui vont disparaître. Au chapitre des opinions, pas grand-chose ce matin. J'ai plutôt envie de vous amener dans le journal de Montréal. Il y a une page vraiment très sympathique sur quoi faire en fin de semaine, puisqu'on a une longue fin de semaine qui s'en vient. Et qu'est-ce que vous diriez qu'on aille un petit peu en musique pour que je me rafraîchisse un petit peu? Alors, nous sommes à la veille d'un long week-end et c'est un long week-end qui s'annonce beau, 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 comme un jour d'été, comme trois jours d'été. Alors, il va falloir, quand je dis d'été, je pense au mois de juin, au mois de juillet. Nous n'avons pas toujours eu de très beau temps, mais en ce début septembre, il va falloir en profiter. Voici quelques activités. Peut-être pour vous qui êtes, entre autres, des gourmands, ne manquez pas. Je suis convaincue que mes camarades vous en ont parlé dans Kiosque Magazine, mais c'est intéressant d'en parler deux fois plutôt qu'une. C'est la deuxième année de You'll Eat, qui présente une programmation beaucoup plus ambitieuse que l'an dernier. Et en plus, elle allonge son programme d'une journée. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, en plus qu'un rassemblement de camions de bouffe de rue, le festival invite les Montréalais les 5, 6 et 7 septembre à rencontrer de grands chefs, des agriculteurs ainsi que des producteurs locaux. Parmi les nouveautés figurent un marché de saveurs, des cours de cuisine, des soupers, des brunchs gastronomiques à tous les jours, ainsi que des concerts avec notamment Radio, Rich au coin et Folly and the Hunters. Même si Montréal présente des festivals culinaires presque chaque semaine, You'll Eat est de loin la celle qui a la plus grande envergure, croit Sandra Rinaldi d'Evenco. Les autres festivals se concentrent sur des choses spécifiques comme la poutine, les ribs ou les huîtres. Nous, c'est plus large, on s'intéresse à tout. Alors si vous voulez y aller, c'est vraiment sympathique. You'll Eat, donc You'll, Y-U-L, Eat comme manger en anglais, ça va se passer au Quai de l'Horloge dans le Vieux-Port de Montréal les 5, 6 et 7 septembre et sous le soleil en plus, c'est formidable. Si en plus de la bouffe, vous aimez bien la bière, eh bien pourquoi ne pas aller à Bière et Saveurs de Chambly, ça c'est au Fort Chambly. 110 kiosques, 60 exposants de bière, 28 restaurateurs d'ici, 50 spectacles et conférences, ainsi qu'une foule d'activités pour toute la famille. La 14e édition du Festival Bière et Saveurs de Chambly est à nos portes et promet de ravir les amateurs de houblon. Et puis il y aura de nombreuses découvertes à prévoir, dont la toute nouvelle éphémère à la poire. Alors si vous êtes plus vin bières. Ne ratez pas la fête des vendanges à Magog-Offord. Les adeptes de vin se retrouveront à la fête des vendanges qui propose pour la 22e année de découvrir les produits de 125 producteurs agroalimentaires, vignerons, cidriculteurs et artisans, en plus de démystifier la façon d'apprêter les produits du Québec par l'entremise d'ateliers et de démonstrations données par des chefs de renom comme Jean-Luc Boulet, Patrick Demers, Jonathan Garnier ou Guillaume Quentin. Un volet musical, des ateliers de dégustation de vin et des activités de cirque pour les tout-petits seront également offerts sur place. Et alors si en plus vous aimez le rythme, en plus de la bonne bouffe et du bière et du vin et tout ça, eh bien pourquoi ne pas aller au Festival Rythme et Saveur de Saint-Donat ? Ça c'est du 4 au 6 septembre pour les arts de la rue, pour les arts gourmands ou encore pour la programmation musicale mettant en vedette Cain, Patrick Michaud, Sylvain Cossette et André Waters. Donc toutes les raisons sont bonnes pour aller festoyer à Saint-Donat durant le week-end de la fête du travail. Vous en voulez d'autres, des idées ? J'en ai d'autres. Alors, l'autocueillette de pommes, ça se poursuit jusqu'à la fin octobre en Montérégie. Offrez-vous une activité familiale en plein air ce week-end et optez pour l'autocueillette de pommes. La Montérégie est la région par excellence pour cette activité car elle possède des dizaines de vergers dont certains offrent même du divertissement comme un labyrinthe de maïs ou même une fermette. On vous conseille la Pommeraie d'Or à Rougemont, au 136 chemin de Marieville, autrement dit sur la 112. Quoi. Tiens, parlant de vergers, eh bien, il y aura un véritable verger urbain sur la rue Saint-Denis à Montréal. La rue Saint-Denis qui va se transformer en véritable verger de vendredi à dimanche puisque les amateurs de pommes pourront presser leur propre jus dans l'un des 4 pressoirs artisanaux installés entre les rues Roy et Guilford. Plusieurs commerçants offriront des menus spéciaux et ateliers autour de la pomme. Et à quelques pas de là, la grande terrasse rouge accueillera un orchestre de percussion brésilienne le samedi et un DJ le dimanche. C'est plutôt sympathique, ça. On n'y va pas en voiture, on y va à pied. Les enfants oubliaient ça, la bagnole. Allez, une chronique pour terminer cette deuxième demi-heure de cette dernière émission d'Au quotidien. Aujourd'hui, en ce 4 septembre, chronique qui est écrite par Kim Lizotte pour le Journal de Montréal. Elle dit « Salut tout le monde, on ne s'est pas vu de l'été, vous m'avez manqué. J'ai été occupée à parcourir le monde et à quêter les chalets de tous les gens que je connais. Ah oui, je me suis fait piquer par toutes les espèces de moustiques existantes. J'ai laissé l'humidité gagner sur mes cheveux, bonjour l'afro, et j'ai fini par me tremper le pied dans l'eau froide de la côte ouest en risquant une engelure fatale. J'ai aussi trop mangé, trop bu, trop pleuré dans un village français. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les cousins français qui m'ont causé du tort, c'est mon frérot qui se mariait avec une fille de l'autre côté de l'Atlantique. Magnifique mariage, digne de Pinterest, j'ai failli faire exploser mon compte Instagram. » Elle dit que elle s'est dit que cet été serait une belle occasion de commencer des chroniques touristiques. Je croyais vous revenir de vacances avec un top 10 des meilleurs vins français ou un guide conseil sur quoi faire au chalet quand il pleut et qu'il n'y a pas de maudit Wi-Fi. Mais non, ce n'est pas là qu'elle est apparue ma chronique. Elle était chez moi dans le bas du fleuve, dans mon village natal. Elle m'est sautée dessus alors que j'avais les deux pieds dans l'herbe longue au sommet de la côte des Chats. Sur le belvédère de Saint-Pacôme, sous mes yeux, se trouvait la pente de ski de mon enfance. Et je me suis trouvée chanceuse d'avoir eu dans mon petit village un endroit où pratiquer ce sport hivernal. Elle est fermée présentement. Elle était désuète. Je regardais les infrastructures en me disant que rien n'avait changé depuis des années. Qu'il était peut-être temps de la laisser aller, de laisser la nature de la montagne gagner sur les pentes déboisées. Ce n'est pas la plus haute montagne, ce n'est pas le Mont Tremblant, ni le Mont Sainte-Anne, ni les Rocheuses. Elle n'est pas entourée d'un million de restaurants, de boutiques, de bars, de condos et de chalets de toutes sortes. Mais si je sais ce qui est aujourd'hui, c'est grâce à elle. Parce que sans elle, mes parents n'auraient jamais fait une heure de route chaque matin de semaine, payé des billets de saison, des équipements à chacun de leurs enfants, loué des condos de ski pour nous héberger. Pas qu'on était pauvres, pas qu'on voulait pas, mais on peut l'avouer, le ski n'est pas le sport familial le plus abordable. Alors pourquoi sauver cette petite station de ski, hein ? alors qu'il y en a de plus grosses, de plus performantes, de plus adéquates? Pourquoi entretenir ces petites pentes qu'on descend en 3 minutes et qu'on répète à l'infini? Pourquoi est-elle importante? Parce qu'elle est là, dit Kim Lizotte, au beau milieu du Bas-Saint-Laurent, où des familles, des enfants, des ados, des adultes peuvent pratiquer un sport coûteux qui demande du temps, du déplacement, des coûts faramineux et auquel une espèce de culture se rattache. La villégiature, la presqu'île sur le bord du feu, la nouvelle tuque, l'équipement à la fine pointe de la technologie. Mais si on pouvait faire survivre ces petites stations modestes en les gardant accessibles, peu coûteuses, auxquelles on peut accéder rapidement le temps d'un ski de soir sans se ruiner, sans y passer la fin de semaine, seulement pour en profiter, bouger, sentir le vent froid nous geler la face, apprendre à ses enfants à descendre s'enfoncer dans un sapin, à rire de ceux qui font encore du chasse-neige, eh bien, ça crée des gens comme moi. Des filles et des garçons qui autrement n'auraient jamais fait de ski, mais qui ont appris, simplement. Et qui maintenant peuvent louer un chalet, s'acheter un équipement et rentabiliser et assurer le succès des grosses montagnes entourées de restaurants. Ça fait drôle, hein, en pleine chaleur, d'entendre parler de ski. Eh bien, c'est pourtant ce qu'elle nous proposait, Kim Lizotte, ce matin. Ça nous changeait un petit peu du petit bonhomme sur la plage, dont il sera évidemment question dans la deuxième heure de cette dernière, ultime émission d'Au quotidien.
Au quotidien, avec Clotilde Seille. Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing. Junk in all the right places. I see those magazines working on Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me, don't worry about your size. She said, you know I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass, no treble. I'm all about that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies that. Nah, I'm just playing. I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Hey, my mama, she told me don't worry about the size. She said boys like a little more booty to hold at night. And I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're because you know I'm you see my mama, she told me don't worry about
bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass, no trouble. I'm all about the bass, by the bass.
Eh bien voilà, c'est la deuxième heure de la dernière émission d'Au quotidien qui commence, animée pour vous par Clotilde Say sur les ondes de Canal M. Si vous n'étiez pas là au tout début de cette émission, sachez que à partir de mardi prochain, donc du 8 septembre, va s'ouvrir à 9h du matin jusqu'à 11h45, un nouveau magazine qui va s'appeler Les Voix de Service, les voix avec une faute d'orthographe exprès, V-O-I-X, pour marquer, pour souligner le fait qu'il y a à chaque semaine 20, 25, 30 personnes qui vont venir ici pour vous faire découvrir tout ce qu'ils ont trouvé à droite et à gauche qui leur semble intéressant, qui leur semble instructif, qui leur semble ludique, qui leur semble drôle à vous partager. Alors, ce sera vraiment un grand, grand magazine tous les matins qu'on va vous offrir. On va travailler très, très fort pour que ce soit vivant, sympa et que ça devienne pour vous un rendez-vous incontournable, pas seulement avec l'actualité du jour, mais aussi avec, encore une fois, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Et comme vous ne pouvez pas être au courant de tout, eh bien, nous, on sera là pour vous tenir au courant. Voilà donc pour les voies de service. Début de deuxième heure consacrée, comme toujours, à la campagne électorale. Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je lui trouve un petit moment à cette campagne électorale-là dans le cadre de la nouvelle émission. Alors, une fois n'est pas coutume, on n'a pas beaucoup parlé des Verts. Il y a une double page sur Madame Elisabeth May qui préside toujours à la destinée du Parti écologique. Et Madame May, donc, qui nous dit, interviewée par Annie Mathieu, que le Parti Vert n'est pas un parti de gauche ni un parti de droite. Sa chef Elisabeth May tient mordicus à se défaire des étiquettes accolées à sa formation. C'est celle plaçant le Parti Vert à la gauche de l'échiquier politique qui est la plus tenace. En entrevue au Soleil, durant son passage dans la capitale nationale hier, Madame May tique lorsque l'on compare son organisation avec celle de Québec solidaire dans la province. Nous avons des politiques différentes. Avance d'abord la députée qui souhaite se faire réélire dans la circonscription de Saanich Gulf Islands, en Colombie-Britannique. Elle reconnaît néanmoins une proximité avec la plateforme écologique, bien sûr, de Françoise David et d'Amir Kadir, quel lapsus, ou avec leur objectif d'instaurer Format Québec. Mais Vert et Solidaire n'ont pas la même vision économique. Lorsque c'est possible, nous préférons avoir un budget équilibré, illustre-t-elle. Mais nous ne sommes pas non plus idéologiquement contre les déficits, ajoute la chef. Elle veut aussi en finir une fois pour toutes avec l'idée que son programme n'est composé que de mesures environnementales. Cette semaine, par exemple, elle proposait un revenu garanti pour les aînés, tandis que la précédente, le Parti Vert lançait son plan pour procurer à la population des logements abordables. Elisabeth May tient à préciser qu'elle respecte les volontés du Québec, bien que sa formation soit fédéraliste. Mais avec la question des changements climatiques, celle de l'indépendance n'est pas la plus importante. Ce n'est pas le moment pour un mouvement souverainiste au Québec, tranche-t-elle en décochant une flèche à son adversaire bloquiste, Gilles Duceppe, pour arrêter un projet comme celui du pipeline d'énergie Est et pour protéger le fleuve et le golfe du Saint-Laurent. On doit utiliser les outils au niveau fédéral. Ce n'est pas utile d'avoir les députés du Bloc. Ils ne peuvent rien faire pour les vraies questions de changement climatique. La chef verte ne réserve pas ses attaques qu'aux bloquistes. Son homologue néo-démocrate Thomas Mulcair, qui n'a clairement pas été le meilleur ministre de l'Environnement de l'histoire du Québec, dit-elle, passe aussi à la moulinette. C'est évident que le NPD n'est pas un parti écologiste, affirme Madame May. Pour elle, aucun doute que M. Mulcair est en faveur d'Énergie Est. En s'en prenant à tous ses rivaux sans distinction, Elisabeth May veut démontrer qu'elle n'a pas froid aux yeux. Et puis Vincent Marissal dans la presse qui écrit « Les migrants débarquent dans la campagne ». Au cours des trois dernières campagnes électorales fédérales 2006, 2008 et 2011, Stephen Harper nous a habitués à le voir imposer le rythme, à dicter les enjeux et à suivre avec une discipline qui faisait l'envie des autres partis son plan de match, sans en dévier le moindrement. Cette fois, non seulement il ne semble pas inspiré, mais en plus, les éléments extérieurs lui tombent dessus avec la régularité des pluies de novembre. Il y a eu l'affaire Duffy, puis les soubresauts sur les marchés financiers, suivi de la confirmation de la récession légère, certes, mais même légère, le mot fait toujours son effet. Et puis voilà maintenant, chose rare en politique canadienne, qu'une crise internationale s'invite avec fracas dans la campagne électorale. Une crise internationale personnifiée par cette photo affligeante d'un bambin syrien retrouvé mort noyé sur une plage de la Turquie. Ce bambin syrien dont les parents, a-t-on d'abord cru hier, avaient vu leur demande de réfugiés refusée par le Canada. En fait, devait-on apprendre, c'est l'oncle du petit garçon qui a déposé une demande qui a été rejetée par Ottawa. N'empêche, dit Vincent Marissal, cette crise des migrants bouleverse les plans électoraux de Stephen Harper et de ses ministres. Chris Alexander, ministre de l'immigration, a mis sa propre campagne en veilleuse pour rentrer précipitamment à Ottawa et Jason Kenney de la Défense a annulé une conférence de presse. Stephen Harper, lui, est rentré à Ottawa quelques heures, question de gérer la crise. Il est très rare qu'une grosse nouvelle internationale chamboule l'agenda d'une campagne électorale. La dernière fois, c'était le 1er mai 2011, la veille du vote, et les nouvelles étaient meilleures pour Stephen Harper. Le président américain Barack Obama avait alors confirmé, tard en soirée, qu'Oussama Ben Laden avait été localisé puis abattu. Mais cette fois, cette crise des migrants en Europe s'aggrave de jour en jour et elle a fini par nous atteindre ici, à des milliers de kilomètres de cette sordide plage de Turquie. Dans son plan de campagne, M. Harper voulait parler de lutte contre le terrorisme du groupe État islamique de sécurité, certainement pas des politiques d'accueil des réfugiés et encore moins de son manque de compassion. Hier, après un hiatus de quelques heures dans sa campagne, M. Harper a voulu montrer aux Canadiens son côté père de famille, ému par ce drame en Turquie, mais la politique a bien vite repris ses droits. La politique étrangère n'a jamais été le point fort de Stephen Harper. En 2006, le nouveau Premier ministre Harper avait été vertement critiqué pour son manque de compassion envers les victimes civiles de bombardements israéliens au Liban, dont 7 Canadiens. Son gouvernement avait aussi été montré du doigt en raison de sa lenteur à rapatrier les Libano-Canadiens coincés au Liban. Thomas Mulcair et Justin Trudeau, eux aussi, ont fait de la politique avec ce drame en attaquant durement Stephen Harper, mais à leur décharge, ils réclament depuis des semaines au gouvernement d'ouvrir les portes aux réfugiés. Quant à la proposition du Bloc de décréter une trêve électorale pour trouver une position commune, elle a le mérite d'être constructive, mais jamais messieurs Harper, Mulcair et Trudeau ne permettront à Gilles Duceppe de jouer les « elder statesmen ». Alors, je suis maintenant dans le devoir avec Manon Cornelier qui parle des chefs des autres partis, de Thomas Mulcair à Justin Trudeau, en passant par Gilles Duceppe, qui ont écorché sans insister les conservateurs jeudi, préférant lancer un appel à une action immédiate. Et dans leur cas, on ne pourra pas dire qu'ils viennent de se réveiller. Comme les groupes humanitaires et les médias, les partis d'opposition n'ont cessé de dénoncer depuis des mois les engagements timides d'Ottawa et sa lenteur à les respecter. Le Canada n'a atteint qu'en mars dernier son premier objectif, pris en 2013, de transférer 1 300 réfugiés syriens d'ici la fin de 2014. Le gouvernement s'est quand même engagé en janvier dernier à en accueillir 10 000 autres, mais sur une période de 3 ans. On lisait même 4 ans dans un autre papier. Il refuse de dire combien d'entre eux sont arrivés depuis. Et cette générosité a ses limites, dit Mme Cornelier. Chaque fois que les conservateurs promettent de transférer plus de Syriens, ils diminuent d'autant le nombre prévu de réfugiés venus d'ailleurs. En plus, ils assignent au gouvernement le coût du parrainage de 40% de ces réfugiés, mais laissent le reste du fardeau au groupe privé. Ce drame, dit-elle, est une nouvelle tuile pour les conservateurs. Le procès Duffy a jeté un doute sur leur intégrité, celle de leur chef. Le ralentissement économique a fait planer une ombre sur leur image de bon gestionnaire et la mort d'un petit enfant risque de nourrir l'impression d'un gouvernement dénué de compassion, à moins qu'il trouve le ton et la réponse juste. On va aller un petit peu en musique, je reviens juste après. Non, faites pas ça. Si vous fermez la radio, vous ne pourrez plus m'entendre. Puis moi, si je brûle les journaux, ben, je ne pourrai plus faire grand-chose non plus. Un petit peu de sport. Quelques mots, entre autres, des expos. Philippe Quentin qui nous rappelle qu'à Montréal, Denis Coderre est l'auteur de la déclaration la plus intrigante de l'été dans le monde du sport. Lors de l'intronisation de Pedro Martinez au Temple de la renommée du baseball en juillet, il a lancé « Dans ma tête, les expos de Montréal, ce n'est pas un « si », c'est un « quand ». Un politicien habile et expérimenté comme M. Coderre ne se montre pas aussi affirmatif sans être convaincu de son affaire. On peut donc croire que le dossier avance, même s'il nous semble toujours contraint à l'acte de foi, car si le maire pousse la candidature de Montréal auprès du baseball majeur, aucune information substantielle ne filtre. Alors, qui sont les investisseurs intéressés? Comment financer la construction d'un nouveau stade? Le commissaire Rob Manfred, qui évoque ouvertement l'idée d'une expansion à l'extérieur des États-Unis, a qualifié le maire de « très persuasif ». Alors manifestement, M. Coderre lui en dit plus qu'à nous. Hier, défaite pour les Alouettes, qui ont perdu 25 à 16. Les équipes de football qui parlent souvent de l'importance de remporter la bataille des revirements si elles peuvent se donner une chance de remporter le match. Eh bien, les Alouettes, et en particulier Tanner March, ont visiblement perdu de vue cette notion cruciale hier soir alors qu'ils affrontaient les Lions de la Colombie-Britannique. Et puis aujourd'hui, c'est le vrai test pour Eugénie Bouchard. Accéder au troisième tour des internationaux des États-Unis, ce n'est pas de la petite bière, surtout pas pour une joueuse qui vient de traverser la pire période de sa jeune carrière. Mais il faut dire les choses comme elles sont. La Québécoise de 21 ans n'a pas encore eu à se mesurer à une adversaire d'envergure à New York. Eh bien, ce sera pour aujourd'hui. En début d'après-midi, elle foulera le court du stade Louis Armstrong pour y affronter Dominika Cibulková. La Slovaque de 26 ans, qui n'est actuellement que 50e à cause d'une absence de 5 mois due à une blessure au tendon d'Achille. Mais sinon, elle est très, très, très forte, cette fille. Alors, on verra bien. Si Mme Bouchard fait la une des journaux demain, mes amis, de toute façon, elle fera la une. Ce sera soit parce qu'elle a perdu, soit parce qu'elle a gagné. On s'en va à l'international dans quelques secondes. Agnès Grudin, elle signe sa chronique qui s'appelle aujourd'hui « Après Elan », le prénom du petit garçon en question. Commençons par le début, dit-elle. Si la famille du petit Elan avait eu un espoir raisonnable de pouvoir s'établir au Canada, le gamin de 3 ans serait probablement encore en vie. Et peut-être même qu'il aurait déjà rejoint ses proches en Colombie-Britannique avec son frère de 5 ans, Galip, et ses parents, Réan et Abdullah. Au lieu de ça, la famille a tenté de gagner la Grèce depuis la Turquie, où elle s'était réfugiée après avoir fui Kobané, ville qui a été le théâtre de l'une des batailles les plus féroces de la guerre qui déchire la Syrie depuis plus de 4 ans. Comme tant d'autres, leur bateau a chaviré. Et ensuite, elle nous rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé. Selon les premières informations publiées hier, la famille d'Elan avait fait une demande d'asile au Canada, mais celle-ci aurait été rejetée. Ça, c'est ce qu'elle écrivait à ce moment-là, mais on a su depuis que c'est quelqu'un ici, en Colombie-Britannique, de la famille de cette famille-là, qui avait fait la demande refusée auprès du Canada, et ce n'était pas malheureusement ce père de famille et sa femme et les 2 enfants. La première chose que l'on doit retenir de cette tragédie d'Agnès Grudin, c'est que l'actuelle crise des réfugiés, plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale, ne concerne pas uniquement l'Europe. Les exilés syriens sont prêts à recommencer leur vie partout où c'est possible, y compris au Canada, qui a des obligations internationales, mais aussi morales, au chapitre de l'asile et de l'accueil. La Turquie ne rend pas la vie facile aux réfugiés syriens, particulièrement aux Kurdes. Ils ont de la difficulté à obtenir des visas de sortie et à être officiellement répertoriés comme des demandeurs d'asile. Ce n'est pas une raison pour les refouler. Les familles d'Elan et de son oncle Mohamed ont fui une ville ravagée par la guerre. Elles pouvaient compter sur des proches prêts à les accueillir au Canada. C'est assez pour leur ouvrir les portes du pays sans s'empêtrer dans des détails bureaucratiques. Ce qui nous mène à la deuxième leçon à tirer de l'histoire du petit Elan. Quoi qu'en dise Stephen Harper, le Canada n'est plus la terre d'accueil qu'il a déjà été, notamment à cause des politiques adoptées sous son règne. Après l'insurrection de Budapest en 1956, le Canada avait accueilli 37 000 réfugiés hongrois, fuyant la dictature soviétique. 11 ans plus tard, après la répression du printemps de Prague, ce sont 11 000 Tchèques qui ont abouti au Canada. Puis en 1979, il y a eu la grande vague des boat people, les réfugiés de la mer qui avaient massivement fui le Vietnam après la chute de Saïgon. Et comme aujourd'hui, il y avait alors eu des bateaux refoulés, des embarcations de fortune avalées par la mer. Le sort de ces réfugiés a soulevé une vague de sympathie collective qui a débouché sur la création d'un programme de parrainage mi-privé, mi-gouvernemental, en vertu duquel 60 000 personnes ont trouvé asile au Canada. À côté de ces chiffres, les 2374 réfugiés syriens accueillis par le Canada jusqu'ici représentent une micro-goutte dans un océan de besoins. Il y a 8 ans encore, le Canada était l'un des 2 ou 3 principaux pays d'accueil pour les réfugiés. Depuis, nous avons dégringolé en 15e place. Il est de plus en plus difficile de venir présenter sa demande d'asile au Canada. La réinstallation de réfugiés sélectionnés à l'extérieur du pays se heurte aussi à de plus en plus d'obstacles. La proportion des parrainages privés est de plus en plus élevée, nous dit Agnès Gruda. Or, comme le dénonce le Conseil canadien des réfugiés, le programme de parrainage s'est bureaucratisé et les délais sont de plus en plus longs. 2 ans en moyenne en temps de guerre. 2 ans, c'est une éternité. Dans l'urgence de la crise, le Canada devrait se montrer beaucoup plus souple, plaide Loli Rico, présidente du Conseil. Il faudrait délivrer des visas touristiques ou des visas d'étudiants et accepter rapidement les Syriens qui ont de proches parents au Canada. Au-delà des politiques, il y a aussi les discours. Le gouvernement canadien met de plus en plus l'accent dans ses discours sur les mauvais réfugiés. En temps de crise, ça freine les élans de générosité, déplore Laura Madocoro, spécialiste de l'histoire de l'immigration et de l'asile à l'Université McGill. Elle rappelle, nous dit Agnès Gruda pour conclure, qu'il avait fallu 4 ans avant que le drame des réfugiés indochinois n'atteigne l'opinion publique canadienne. La guerre syrienne dure depuis plus de 4 ans. Alors c'est le temps de bouger pour empêcher d'autres Aylen de sombrer dans la mer. Quelques nouvelles en bref trouvées dans la presse au sujet de l'actualité internationale. Vers la présidentielle américaine, une autre photo de l'homme aux cheveux orange, M. Donald Trump, qui a dit « Je ferai totalement allégeance au Parti républicain et aux valeurs conservatrices qu'il défend. Et nous allons sortir et nous allons nous battre dur et gagner. Je ne vois aucune circonstance qui me pousserait à revenir sur cette promesse. » Donald Trump qui a promis hier qu'il soutiendrait le candidat quel qu'il soit choisi par le parti en vue de la présidentielle, il avait fait planer il y a quelques semaines la menace d'une candidature indépendante s'il n'était pas désigné. Opposition au mariage gay, une greffière du Kentucky a été condamnée à la prison. Une fonctionnaire qui refusait d'enregistrer des mariages homosexuels au nom de ses convictions religieuses a été condamnée hier à la prison. Kim Davis a été écrouée sur jugement d'une cour fédérale du Kentucky, état où la greffière refuse obstinément d'appliquer la nouvelle loi permettant le mariage gay. Au Guatemala, on nous présente en photo Alejandro Maldonado, nommé président intérimaire au lendemain de la démission d'Otto Pérez. Accusé de corruption et désormais en détention provisoire, le Guatemala est présidé par Alejandro Maldonado, qui a prêté serment hier. Il était jusqu'en mai l'un des 5 membres de la Cour constitutionnelle avant d'être rappelé à la vice-présidence pour remplacer Roxana Baldetti, démissionnaire puis placé en détention provisoire dans le cadre du même dossier de corruption. Et puis enfin, en bref, vol MH370, le débris appartient avec certitude à l'avion disparu. La justice française a affirmé hier, 1 mois après les autorités malaisiennes, que le fragment d'aile d'avion trouvé fin juillet dans l'île de la Réunion provenait avec certitude du Boeing 777 de Malaysia Airlines, disparu en mars 2014 avec 239 personnes à bord. Les expertises permettent d'affirmer avec certitude que le flaperon découvert à la Réunion correspond à celui du vol MH370 qui assurait une liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Pour Marie Dosé, l'avocate de Ghislain Ouattrelos, qui a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans la catastrophe, c'est une page qui se tourne. Toutes les expertises et toutes les investigations doivent être désormais menées sur le débris sans aucune pression, notamment des autorités malaisiennes, a souligné l'avocate. C'est Clotilde Seille, c'est aussi la dernière émission de l'émission Au quotidien et je vous retrouve dans quelques minutes pour des sujets culturels, entre autres.
Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Go!
Vous avez reconnu certainement la voix en pleine santé de Tony Bennett, mais ce n'était pas une voix en pleine santé de Monsieur Bennett qu'on a pu apprécier hier. Alors que Tony Bennett présentait un spectacle pour la réouverture officielle du cabaret du Casino de Montréal, le chanteur a dû écourter sa performance, figurez-vous. Il a dit « J'aurais aimé pouvoir chanter pour vous toute la soirée, mais je vais perdre ma voix », a lancé le chanteur de 89 ans avant de souhaiter au public bonne chance sur les tables de jeu du Casino. Le spectacle était censé durer 90 minutes, plus d'une vingtaine de chansons étant prévues au programme. Après une brève ovation debout, les gens n'ont pas tardé à signifier leur mécontentement. Ça ne se peut pas. On laissait tomber plusieurs spectateurs visiblement déçus. À plus de $500 pour deux billets, je trouve ça vraiment très cher. C'est pas correct à lâcher un autre homme, je vois Rémi Amouzeau quand il entend le prix qui fait « ben voyons donc, ben oui ». Il paraît que dès la première chanson, on le sentait moins à l'aise qu'à son habitude. À plusieurs moments, sa voix était chevrotante et bien en deçà de ce à quoi on s'attendait. On en parle dans le Journal de Montréal, on en parle aussi dans la presse. Si je m'en vais ici dans les arts, là, le titre de Daniel Lemay, c'est « Tony Bennett n'a fait que passer ». Après 5 longues années de rénovation, le cabaret du Casino se faisait une fête hier de rouvrir ses portes en présentant le vénérable Tony Bennett, légende vivante de la musique. Mais il a été incapable de soutenir les finales. Le grand crooner américain qui a interprété 7 chansons, puis après San Francisco, il a invoqué donc cette laryngite pour quitter la scène où il avait passé moins de 35 minutes. Avant le spectacle, entre deux photos avec ses fans, quelle gentillesse, le chanteur Michel Louvain avait expliqué à la presse combien il était heureux d'être au cabaret parce qu'il était là aussi. Tony Bennett a toujours été mon idole, mais je ne l'ai jamais vu chanter, a dit Monsieur Louvain, 78 ans, qui a souligné par ailleurs qu'il avait donné le premier spectacle du cabaret du Casino à l'automne de 1997. Sinon, Antonia Bennett avait ouvert le spectacle accompagnée de l'orchestre paternel, un quatuor de belle tenue, piano qu'on avait oublié de polir, ouch, la guitare, la batterie contrebasse, voix nasillarde marchant coude à coude avec la fausse note où Madame Bennett ne rejoindra pas son célèbre père dans les pages d'or du Great American Songbook. Sympa néanmoins. Je voyage à travers le monde avec mon père. It's a nice job, a-t-elle dit. Surtout que chaque soir, sans s'en rendre compte, il m'apprend des choses. Et la chanteuse de dédier à son daddy la chanson Lucky Guy de Billie Holiday. Mais tant mieux si elle apprend, parce qu'apparemment, elle a des croûtes à manger, la demoiselle. « Oui, ça fait jaser. Hein. Figurez-vous que Xavier Dolan va être l'égérie de Louis Vuitton. Bon, on s'en doutait un peu, parce que ça fait belle lurette qu'il portait du Louis Vuitton. On se disait que, bon, OK, il est sûrement peut-être un peu plus riche que vous et moi, mais enfin quand même. Eh bien, ça y est, il est l'égérie de Vuitton. Les premières photographies de Xavier Dolan, nouvel ambassadeur de Louis Vuitton, ont été dévoilées hier. Cette campagne publicitaire composée de photographies en noir et blanc, d'Alasdair MacLellan présente la nouvelle ligne de maroquinerie de Louis Vuitton, ambrée. Dolan, égérie de l'enseigne de luxe française, rejoint la liste prestigieuse de stars comme Angelina Jolie, Madonna et Sean Connery qui ont déjà prêté leur visage à la marque. On se souvient que le réalisateur, membre du jury du Festival de Cannes, portait de chic costumes Louis Vuitton sur les tapis rouges. Oh oui, on s'en souvient. Dans les pages du Devoir, on nous parle du congrès du PEN international à Québec. C'est Caroline Monpetit qui nous dit que des centaines d'écrivains du monde entier, de l'Afghanistan à la Chine, en passant par l'Algérie ou les États-Unis, afflueront vers la ville de Québec à la mi-octobre pour participer au 81e congrès international du PEN Club. Ce sera l'occasion pour les délégués de réfléchir sur les entraves à la liberté d'expression partout dans le monde. Ce sera aussi le moment pour le président actuel du PEN international, l'auteur canadien John Ralston Saul, de passer le flambeau à un autre écrivain, tandis que le président de PEN Québec depuis 15 ans, Émile Martel, cédera également son poste à quelqu'un d'autre. C'est la deuxième fois dans toute l'histoire du PEN qui est née entre les deux guerres en Europe que le congrès annuel se tient au Canada. Le PEN Club, pour faire un peu d'histoire, a été fondé à Londres en 1921. Les premières rencontres autour d'un repas réunissaient entre autres les écrivains Joseph Conrad, George Bernard Shaw et H.G. Wells. La formule qui vise à défendre la liberté d'expression des journalistes a rapidement fait des petits. Des clubs PEN ont été inaugurés partout dans le monde, du Mexique à la Chine, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le PEN organise un débat auquel participent des écrivains juifs allemands exilés. Durant la guerre civile espagnole, le PEN a réussi, par ses pressions sur les franquistes, à sauver de la mort Arthur Koestler. Il ne pourra cependant que constater l'assassinat de Federico Garcia Lorca par les milices franquistes. Et présentement, quelques 200 écrivains par année sont assassinés à cause de leurs écrits et quelques 900 autres sont privés de leur liberté d'expression d'une manière ou d'une autre, dont un certain Raif Badawi. Je vous en reparle tout de suite. Alors justement, où l'on reparle de Raif Badawi, puisque le blogueur saoudien, qui on le sait, hein, est condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet à cause de ses écrits, eh bien il sera l'invité fantôme en quelque sorte de ce 81e congrès du PEN international. C'est ce qu'a annoncé hier le président sortant, romancier et essayiste canadien M. Saul, qui est à la tête de l'organisme depuis 6 ans. Il y en a de plus en plus des gens enfermés, a-t-il affirmé à la presse en marge de la conférence de presse où la programmation du congrès était dévoilée. Nous avons justement réussi à faire libérer récemment un blogueur afghan qui était sur le point d'être exécuté. Non seulement nous l'avons sauvé, mais nous avons réussi à lui faire quitter le pays. Le cas Badawi, dit John R. Saul, est particulièrement horrible. Condamner quelqu'un à être fouetté de cette façon, c'est le condamner à mort. Nous ne sommes pas les seuls à nous impliquer pour lui et nous n'arrêterons pas. L'affaire Badawi est un cas parmi les centaines d'autres sur lesquels se penche le PEN chaque année. Environ 200 journalistes, blogueurs et écrivains, là aussi on nous le rappelle, sont tués et 800 autres sont mis en prison. Et il faut arrêter de croire que la censure et la répression ne sont qu'une affaire d'extrémisme religieux. C'est une erreur qu'on fait souvent en Occident. Sur les 200 morts cette année, je dirais que 170 n'ont aucun lien avec la religion. Ce sont des présidents, des premiers ministres, des militaires, le privé, le crime organisé qui sont en cause, dit John Ersol, qui dit avoir rencontré, en tant que président du PEN, un nombre incalculable de chefs d'État détestables. Ce serait difficile de ne pas terminer cette dernière émission d'Au quotidien sans évoquer le drame de ce petit garçon qui semble tout d'un coup donner une espèce de grande gifle à l'humanité. Puis c'est comme si tout d'un coup là, les gens se réveillaient. Hein, parce que bonjour Christiane.
Bonjour.
On en parle beaucoup, mais ce petit garçon, certainement aussi parce qu'il est blanc, parce qu'il est habillé comme nos petits gamins, parce qu'il est couché par terre comme nos enfants qui dorment. Et là, tout d'un coup, là, le monde, c'est il faut faire quelque chose. Ben oui, il faut faire quelque chose. Mais je pense à tous ceux dont on n'a jamais vu les images. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me frappe énormément.
J'ai lu un texte hier au bulletin sur les migrants avec un handicap et la guerre en cause beaucoup.
Oui. Écoutez, j'en avais juste glissé un mot, effectivement, parce que pour eux aussi, c'est difficile, vous imaginez. Souvent, ils font des milliers de kilomètres poussés par les uns, tirés par les autres, en tout cas. Ou même aussi dans les bateaux, on les retrouve. C'est... Parce qu'alors, eux, si le bateau coule, ils n'ont vraiment aucune chance, quoi. Donc, je voudrais terminer peut-être sur quelques opinions à droite et à gauche. Par exemple, celle-ci de Daniel Creusot dans Le Devoir, qui écrit « Des milliers de petits garçons et de petites filles meurent par milliers, par dizaines de milliers, au Congo, à Gaza, en Iran, en Afghanistan ou au Soudan. Certaines images choquent, révoltent les opinions des pays occidentaux et puis on oublie. On oublie parce que ça ne nous touche pas profondément dans l'essence même de nos coutumes de culture, de notre culture. » Alors pourquoi cette image prend-elle une dimension aussi tragique dans nos pays? Bien parce que ce petit garçon, d'abord, semble dormir, et ce n'est pas vrai, il n'est pas mort. Et puis surtout, il est habillé, justement, on en parlait, comme le sont nos petits garçons. Pas de djellaba, pas de haillon, pas de costume traditionnel, non, un short et une chemisette ou un polo rouge que l'on peut acheter chez la Baie ou Walmart. Ce petit garçon, c'est un membre de la famille, c'est notre fils, c'est notre frère, ou alors c'est notre chum à l'école. C'est Daniel Creusot qui a écrit ça. C'est paru dans Le Devoir. La presse maintenant, docteur Gilles Julien, le célèbre docteur Gilles Julien, pédiatre social, écrit ce matin « Notre société mondiale, mais aussi locale, n'est ni égalitaire, ni équitable. Il y a les chanceux et les moins chanceux. Ceux qui sont nés à la bonne place et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui en ont trop et ceux qui n'en ont pas du tout. Ceux qui profitent et ceux qui ne profitent pas. Quand on est né du bon bord, il y a le laisser-faire et l'inertie. Quand on ne l'est pas, il y a la migration, l'itinérance, le statut de réfugié sans port et sans patrie, avec tout le risque que comporte l'exil forcé et ceux qui ne veulent ni voir ni agir. Comment y changer quelque chose? Par le partage, la solidarité et l'humanisme. Combien d'enfants s'échouent chaque jour, sans compter les adultes, même dans nos communautés? Ceux qui ne naissent pas égaux, ceux qui ne se développent pas, faute de moyens, ceux qui vivent dans des conditions misérables, dans des logements infects, entourés de drogues et de violences, ceux qui décrochent, faute de mieux, dans une société qui n'est pas juste. Tous ces échecs de vie qui conduisent au naufrage se trouvent partout dans le monde et aussi dans notre entourage. Il faut se mettre à l'action tous les jours pour empêcher ce gros naufrage qui mine notre société globale. Le cimetière des enfants, écrit Jazia Abdoun. En mémoire des petits corps échoués en Méditerranée, le cimetière des enfants. Petits corps inertes, aviez-vous une âme? Nous avions une âme sans vie, pourtant, nous rêvions. À quoi rêviez-vous, petits corps moribonds? Nous rêvions de guimauves et de bonbons, de parcs verdoyants, de lucioles et de papillons. Mais, petits corps bleutés, vous avez échoué? Oui, nous avons échoué contre l'écueil de nos rêves, dans nos vêtements décolorés, nous nous sommes étendus tels un arc-en-ciel fané. Et gisant dans un cimetière à ciel ouvert, nous pleurons en silence d'être nés du mauvais côté. Jazia Abdoun a écrit ça. Il y a aussi Louise Maheu de Québec qui écrit « La maison que j'habite est si immense que plusieurs pièces sont inoccupées. Elle est solide et confortable et je ne manque absolument de rien. » J'y dors paisiblement chaque nuit car rien ne peut m'arriver. Mais j'ai des voisins moins chanceux. Leur maison est devenue leur principale menace. Son toit et ses murs s'écroulent. En plus de les rendre vulnérables aux agressions extérieures, ils ont dû la quitter. Et chaque nuit, ils viennent frapper à ma porte. Lorsque j'ouvre mes stores le matin, je les vois, étendus aux abords de ma grande propriété, me suppliant de leur ouvrir. Certains d'entre eux ont succombé à la nuit froide et hostile. Ce matin, un petit garçon, mais ma porte est restée fermée. Ces gens sont différents, j'ai peur. Vont-ils chercher à m'envahir, me prendre une partie de mes biens? Alors je referme les stores et je m'efforce de ne plus y penser. Heureusement, mes murs sont épais. Je n'entends pas leurs cris de détresse. Et courageuse, cette Madame Louise Maheu, d'avoir envoyé ces mots-là. On est plusieurs parfois à entendre hein, ces cris-là et puis à faire « Oh, je vais me faire un café hein? ». En tout cas, je fais partie de ces gens-là et je l'avoue. Voilà, c'est ainsi que l'émission Au quotidien s'achève, non seulement l'émission du jour, mais au quotidien en général. Hein? Christiane Campagna, vous allez faire partie aussi de cette grande aventure que sera, je l'espère, les voies de service dès mardi prochain.
Bien entendu.
L'indicatif qu'on entend, c'est aussi la dernière fois qu'on l'entend. Il ne va pas forcément nous manquer, mais c'est normal. À un moment donné, on se lasse même des meilleures choses. Je vous laisse au micro pour le bulletin du handicap. Bye Mathieu, qui lui reviendra, hein, je le précise, lui va rester dans la même case horaire. Quant à moi, je vous retrouve aussi mardi prochain. Je vais aussi profiter d'un long congé ensoleillé et j'ai déjà très hâte de vous retrouver et de vous présenter avec toutes ces voies de service, le nouveau magazine de Canal M, les voies de service. Bonne fin de semaine tout le monde.
Écoutez Canal M pour voir autrement un service de Vues et Voix.